Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2.
Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation.
Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique.
Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire.
Parole de l'ombre 2.
En librairie pour 34,80€ seulement.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une histoire tout à fait incroyable que nous raconte aujourd'hui Franck Ferrand sur Europe 1, qui s'installe tranquillement. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Je tiens avant tout à souligner, Julia, le caractère authentique de cette histoire étonnante et qui aurait pu sortir de l'imagination d'un romancier. Elle a été découverte de façon fortuite par deux historiens, Daniel Voldman et Fabrice Virgili. Alors qu'ils effectuaient des recherches dans les archives de la préfecture, ils vont nous raconter tout ça puisqu'ils sont nos invités aujourd'hui. Ce cas leur a, on peut le dire, sauter au visage, comme ils vont pouvoir nous le dire.
Alors cette histoire, c'est celle d'un déserteur de la Première Guerre mondiale, Paul Grappe, qui pour échapper au front n'a pas hésité à se faire passer pour une femme.
C'est ça, il a d'abord déserté, puis il s'est travesti et il a osé partager officiellement en tant que femme l'intimité de son épouse légitime. Autant dire que son parcours est ponctué de transgressions de plus en plus hardies. Vous allez voir, il ne s'arrête pas là. Vous l'avez dit d'emblée, Julia, c'est une histoire incroyable.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Janvier 1929. Ravel vient de créer son Boléro à l'Opéra. La banquière Marc Hanot a été arrêtée. On s'apprête à inaugurer le train bleu. À Paris, dans la salle des assises, très pompeuse du palais de justice, on va juger une certaine Louise Landy, accusée du meurtre de son mari, Paul Grappe, une victime avec laquelle le rapport d'instruction n'est pas tendre, ivrogne invétéré, a dit le juge, demeure douteuse, déserteur pendant la guerre, ne paraissant digne d'aucun intérêt. Vous allez me dire, dans ces conditions, pourquoi les journalistes se bousculent-ils sur les bancs de la presse ? En vérité, la raison de leur curiosité, et la raison de la curiosité de toute l'opinion derrière eux, c'est la personnalité pour le moins singulière de la victime. En effet, Paul Grappe, outre qu'il était ivrogne et déserteur, avait passé 10 ans de sa vie, de 1915 à 1925, déguisé en femme. Avec le procès de Louise Landy, donc épouse Grappe, c'est le procès de la meurtrière d'un mari travesti qui fait sensation. L'accusé entre dans le box vêtu de noir, c'est-à-dire en grand deuil, ce qui suscite un certain émoi dans la salle. Il faut imaginer cette salle archi-comble. Est-ce qu'il est normal, se demande l'assistance, qu'une femme porte le deuil du mari qu'elle est accusée d'avoir tué ? Devant elle, sur les bancs de la défense, les avocats feignent de rester indifférents à la tension générale. C'est pas n'importe qui, ces avocats. Ce sont des ténors du barreau, dont le célèbre Maurice Garçon en personne. Alors après toutes les formalités d'ouverture d'un procès aux assises, le greffier donne lecture de l'acte d'accusation. On y explique comment Louise a tué Paul, devenu violent, dans un sentiment de légitime défense pour protéger leur enfant. Il semble que quelque légitime qu'aient pu être les terreurs de la mère, elle a agi avec une précipitation des plus regrettables et qu'elle eût pu appeler à son secours et prévenir les voisins au lieu d'accomplir spontanément son acte criminel, dit l'acte d'accusation. Le président de la cour, c'est Raymond Bacard, un conseiller d'État. Il mène les débats avec beaucoup de nuances, beaucoup de tact. Il a l'air plutôt bienveillant envers l'accusé, ce qui est aussi le sentiment dominant de l'assistance. L'accusé répond du reste très clairement aux questions qui lui sont posées. Et avant l'audition des témoins, plusieurs de ses réponses font rire l'auditoire. Il est vrai qu'il y a une certaine tension, comme toujours, hein, dans ce prétoire, dans cette salle d'assises. On évoque les quelques 3000 maîtresses de son mari. Là, la salle s'esclaffe. Moi, je ne ris pas, répond-elle. Et quand on évoque la presse de Paul, il a trouvé une place, mais dès qu'il entra en fonction, on lui paya 15 jours pour qu'il fiche le camp tout de suite. On évoque aussi le souhait qu'avait formulé son défunt mari d'entrer dans la police, et spécialement dans la brigade mondaine. « Cela ne manque pas de sel, fait-elle remarquer, pour un homme dont les mœurs étaient qualifiées de dépravées. Dans la salle, tout le monde sait bien à quoi elle fait allusion. Elle fait allusion au fait que la victime ait vécu donc aux côtés de sa femme en travestie pendant 10 ans. Alors le défilé des témoins ne va faire que noircir, que charger encore un petit peu le portrait de Paul Grapp, de sorte que lors de son réquisitoire, l'avocat général, pourtant réputé pour son intransigeance, va se montrer lui-même des plus mesurés. Ce qui ne pouvait que préparer le jury à la plaidoirie vibrante de Maître Maurice Garçon. À l'époque, seuls les hommes peuvent être jurés d'assises. Les femmes n'y seront admises qu'en novembre 1944. Eh bien, chez les 12 hommes qui sont donc là et qui ont à se prononcer, la plaidoirie de Maître Garçon trouve un écho plus que favorable. Après un petit quart d'heure de délibération seulement, le jury revient avec un verdict de non-culpabilité qui éteint du même coup toutes les autres questions. Louise Landy est acquittée, c'est donc libre qu'elle quitte le palais de justice. Un de ses anciens patrons s'est engagé à la reprendre comme ouvrière dans sa fabrique de jouets dès lundi, a-t-il dit, avec plaisir. Mais si ce verdict attendu, ce verdict des plus cléments, clôt judiciairement l'affaire, il est loin, naturellement, d'épuiser le sujet. Le personnage central, cette victime dévoyée, paresseuse, alcoolique, dénoncée par la presse, ce Paul Grapp, que tout le monde s'est hâté d'oublier, posait de nombreuses questions à la société française. Eh bien, c'est son destin à lui qu'il convient de creuser, c'est ce destin tout à fait hors norme que nous allons ressusciter.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui nous relate aujourd'hui sur Europe 1, le destin singulier de Paul Grapp.
Et oui, Julia, tout a commencé par une belle histoire d'amour dans le Paris ouvrier de la Belle Époque. C'est une ambiance, il faut imaginer une ambiance à la Casque d'Or. Vous voyez, les amants, Paul et Louise, ont alors une vingtaine d'années. Paul est fils de fromager, il est lui-même ouvrier opticien. Louise, fille de journalier, est une petite employée chez un fabricant de matériel scolaire. Ils habitent, tout ça est très modeste, hein, bien sûr. Ils habitent une petite mansarde au 39 du boulevard Arago, donc on est au sud-sud-est de Montparnasse. Ils finissent par se marier en décembre 1911, dans leur arrondissement, donc à la mairie du 13e. Sur un plan militaire, Paul est de la classe 1911. Il passe le conseil de révision devant le 3e bureau de la Seine. Il est déclaré apte au service. J'allais dire, on a tous connu ça. Certains d'entre nous ont connu ça. Son dossier signale au passage qu'il sait nager, monter à cheval, conduire une voiture à cheval, jouer de la mandoline et faire du vélo. Vous voyez, il a beaucoup de cordes à son arc, cette jeune recrue. Depuis la loi de 1905, il faut savoir que la durée du service militaire a été étendue à 2 ans à l'époque. Ce sont de longs services militaires, on est dans une période de préparation de la guerre. Paul est incorporé en octobre 1912, il va donc passer 2 ans sous les drapeaux. Il est caserné à Paris. Alors, vous avez bien compris que le personnage avait un caractère assez peu propice à la vie militaire, c'est le moins qu'on puisse dire, un caractère notamment très indiscipliné. Néanmoins, il va se conformer assez bien à cette vie de caserne. Au bout d'un an à peu près, il devient caporal, et comme souvent les caporaux, il prend une maîtresse au grand désespoir de sa jeune épouse. Mais Paul est d'emblée partisan de l'union libre. Nous verrons tout à l'heure jusqu'où il a porté cette prédilection. Finalement, la crise entre les deux jeunes gens va finir par passer. Paul fait de belles promesses à Louise. Les choses, peu à peu, se tassent. Quand survient la guerre à l'été 1914, Paul est mobilisé comme tous ses camarades de la classe 11. Donc les jeunes époux se séparent. Paul rejoint son corps, c'est le 102e régiment d'infanterie. Et très vite, c'est l'épreuve du feu pour lui. Vous savez que cette guerre, contrairement à celle de 1939-40, cette guerre de 14 a démarré très vite. Dès le 10 août, dans les Hauts-de-Meuse, c'est la confusion, c'est le bruit, c'est la peur, c'est même l'angoisse permanente. Bref, c'est le quotidien des combats qui saisit Paul de plein fouet. Les manœuvres, les marches forcées, et puis les assauts, la mitraille. Comme des milliers, que dis-je, comme des millions de jeunes gens de son âge, Paul Grapp comprend que son existence vient de basculer dans une sorte de cauchemar. Les blessés autour de lui sont nombreux, les morts s'accumulent. Et puis le 31 août... il essuie la mitraille avec son régiment du côté de Remonville. Et là, c'est la blessure. Le caporal Grapp est frappé à la cuisse. Alors, on l'évacue comme on peut jusqu'à une ambulance. Et puis de là, vers l'hôpital militaire qui est situé tout près de Reims. Il semble que son épouse ait pu le savoir, puisqu'on voit Louise à son chevet à ce moment-là. Il est blessé, bien entendu. Paul est blessé, mais il est toujours en vie. On ne peut pas en dire autant de tous ses camarades. Pour prendre la mesure de la violence des combats, il faut que vous sachiez que le 30 septembre 1914, le 102e RI a déjà perdu un tiers de ses effectifs. À cette date, Paul Grappe a été transféré à Paris, au Val-de-Grâce, mais dès le mois d'octobre, les médecins le jugent apte à repartir pour le front, autant dire à l'époque pour le feu, pour l'enfer. Il rejoint son régiment. Son régiment, à ce moment-là, est arrivé dans la Somme. Et on est à l'époque où l'on est en train de s'enterrer dans les tranchées. C'est le début de la guerre de position. Dès le 4 novembre, le caporal prend part à une attaque sur le bois d'Antichy. La compagnie de Paul entre en action au début de l'après-midi. Et c'est pour lui une nouvelle blessure. Cette fois, à l'index droit. Ah, une blessure à la main, ça, aux oreilles des officiers, ça sonne mal. Ça ressemble à de l'automutilation, ce qu'on appelle à l'époque la fine blessure. Sans délai, Paul est mis aux arrêts, sa culpabilité est prouvée. À ce moment-là, il est passible de la peine de mort.
Marche franco-lunaire d'Éric Satie sur Europe 1.
Il faut vous dire que cette période est extrêmement traumatisante pour des dizaines et des centaines de milliers de jeunes gens. Ça me rappelle un séminaire sur les traumatismes de guerre. Ce début de Première Guerre mondiale a été une surprise pour la plupart, ne l'oublions pas. Donc Paul est arrêté sous la suspicion de s'être automutilé, mais dès le 16 novembre, il bénéficie d'un non-lieu. Sa blessure s'est néanmoins aggravée, alors il est transféré à l'hôpital de Creil où les médecins décident de l'amputer de son doigt blessé. Tout ça ressemble vraiment à un mauvais rêve. C'est le quotidien de tous ces jeunes gens emportés dans la guerre.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Précisément au cœur de l'histoire de Paul Grappe qui, pour échapper à la guerre, va se travestir en femme.
Exactement. Ce jeune caporal Paul Grappe vient d'être amputé d'un doigt, je vous l'ai dit, à la suite donc d'une deuxième blessure au combat. Une affaire assez louche qui n'a pas été véritablement élucidée. Il est affecté à l'issue de son opération au dépôt du 102e RI, donc à Chartres. Là, il est toujours convalescent, mais c'est une convalescence qui dure et qui va durer des mois, 6 mois pour un index amputé. Vous avouerez que c'est beaucoup. Le caporal Grappe entretiendrait-il sa blessure pour échapper au front? Il ne serait pas évidemment le premier à le faire. Tout de même, il a fini par attirer l'attention d'un capitaine, un gradé, comme on disait, le chef de la section mitrailleuse de sa compagnie, qui l'accuse de tirer au flanc et lui annonce qu'il le renvoie au front le jour même. Ça, pour Paul Grappe, c'est le signal du départ. Le 19 mai 1915, il est porté manquant à l'appel et 3 jours plus tard, le 22, il est officiellement porté déserteur. Alors, que va faire Paul Grappe? Eh bien, il faut qu'il se cache, évidemment. Dans un premier temps, il rejoint sa femme, Louise, chez sa belle-mère, rue Broca, et puis le couple passe assez rapidement chez la mère du déserteur, à Saint-Denis. Il faut cacher Paul, qui déjà a été condamné par contumace et qui risque, s'il est découvert, d'être fusillé dans la foulée. Comment est-ce qu'on peut, dans un pays en guerre, un pays qui est vraiment aux aguets, comment, même si on est là, loin à l'arrière, comment peut-on cacher un jeune homme qui vient de déserter? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'une idée assez extraordinaire vient à Paul Grappe. Il se dit qu'après tout, s'il pouvait passer pour une femme, on ne le retrouverait pas. Il est petit, il a les traits plutôt fins. Bien sûr, en changeant de sexe, il est quasiment certain de ne pas attirer l'attention sur lui. Reste à convaincre Louise, tout de même, ça ne semble pas avoir posé de problème. Premier essai, Paul revêt un des tailleurs en velours de Louise, un chapeau, un peu de maquillage. Il fait un tour dans le quartier et ça marche parfaitement. Visiblement, le subterfuge fonctionne. Personne ne paraît soupçonner le travestissement. Louise ne tarde pas à louer une chambre de bonne, avenue du Bel Air, dans le 12e arrondissement. Le couple y emménage sous les noms de Louise Landy et Suzanne Langard. Ce sont donc deux jeunes femmes, deux amies qui vont emménager sous le même toit. N'oubliez pas qu'on est en temps de guerre, à une époque où la plupart des jeunes hommes sont au front, les femmes ont tendance à se serrer les coudes, bref. Il n'y a rien de très étonnant et absolument rien de scandaleux, a priori, dans cet emménagement à deux. Pour Paul alias Suzanne, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une nouvelle vie qui commence. Or, la transgression du genre dans la lourde destinée de Paul Grapp, cette transgression de sexe n'est qu'une première étape. Vous allez voir que chez lui, des transgressions, il y en aura bien d'autres.
La valse du mystérieux baiser dans l'œil, composée par Eric Satie-Franck.
On est dans l'époque avec Satie, et bien dans l'esprit un peu flottant de cette histoire inattendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons la chance d'avoir avec nous dans ce studio Fabrice Virgili et Daniel Voldman, qui sont les découvreurs, on devrait dire les inventeurs, mais au sens propre du mot, de cette extraordinaire histoire. C'est une découverte qui s'est faite par hasard, Daniel Voldman.
Par hasard, et je vais passer la parole à Fabrice parce que c'est lui qui l'a découvert.
Et il était en train, vous étiez, Fabrice Virgili, en train de travailler sur les violences conjugales dans les archives de la préfecture de police,
dans les dossiers de la brigade criminelle. Et en feuilletant ces dossiers, un dossier a attiré mon attention davantage, celui de Paul Grapp et de...
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une histoire qui était totalement oubliée, mais qui, en son temps, en tout cas au moment du procès pour meurtre de Louise, a fait beaucoup de bruit, bien entendu. Hein.
Oui, elle est même choisie par Géo Landon, qui est un des grands chroniqueurs de l'entre-deux-guerres, parmi ses grands procès de l'année. Donc, ça fait, en effet... Il y a des discussions, de nombreuses coupures de presse à ce propos. L'histoire est extraordinaire. C'est-à-dire, ce parcours d'homme qui a vécu 10 ans en femme, qui a vécu 10 ans de l'autre côté du genre. Certains journalistes, avant sa mort, évidemment, lui demande de raconter comment c'est être femme, finalement d'être une sorte d'espion de la masculinité du côté des femmes. Cette histoire, évidemment, a fait couler beaucoup d'encre, aussi bien au moment où il redevient homme qu'au moment où il est finalement mort et où c'est sa femme qui est jugée.
C'est vrai que c'est une histoire qui soulève un grand nombre de questions et qui nous tend à un miroir déformant et passionnant sur la société de cette époque. Nous allons revenir sur toutes ces questions, mais avant cela, nous allons bien sûr achever l'histoire, le destin de ce Paul Grapp, car nous l'avons quitté là en 1915 au moment où il essayait sa première tenue féminine. Il reste encore bien des aventures à vivre.
Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Déserteur et travesti, nous vous racontons aujourd'hui sur Europe 1 l'histoire incroyable mais vraie, Franck, de Paul Grapp.
Oui, quand on entre, comme toujours, hein, quand on entre dans le détail et dans la réalité de l'histoire du personnage, évidemment, ces noms qu'on lui applique, déserteur, travesti, un peu violent, très stigmatisant, deviennent beaucoup plus compréhensibles. On a vu donc ce jeune homme jeté dans le feu des débuts de la guerre de 14. Il refuse, après une deuxième blessure, de repartir au front. Il se cache. Et là, le seul moyen qu'il trouve pour ne pas être découvert, eh bien, c'est de se travestir en femme avec l'accord de sa propre épouse, du reste. Alors, on va les voir passer d'une adresse à l'autre, et puis ils finissent par s'installer dans le 16e rue au 25 rue de l'Annonciation. C'est une adresse que Paul avait explorée du temps de sa liaison avec sa maîtresse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec Rose. Et c'est là, nous disent les auteurs de cet ouvrage, j'ai pas encore cité le titre d'ouvrage, ça s'appelle « La garçonne et l'assassin ». C'est donc l'histoire de Louise et de Paul, déserteurs travestis dans le Paris des années folles. Une histoire de Fabrice Virgili et Daniel Voldman qui sont là avec nous. C'est là, nous disent-ils, que la personnalité de la nouvelle Suzanne commença de s'épanouir. Elle fut embauchée comme façonneuse de bretelles à domicile, ouvrage que Louise était chargée de livrer à son employeur. Elle travaillait seule tout au long du jour, pendant que Louise était dehors, courant de son atelier à celui qui employait Suzanne, rentrant lasse et d'humeur peu badine. Pour s'aérer, se distraire et trouver des figures plus enjouées que la sérieuse Louise, Paul, sous les traits de Suzanne, prit l'habitude d'aller se promener au bois de Boulogne, proche de leur domicile. Là, elle, compris que son allure féminine plaisait autant aux deux sexes. Jouissant de cette ambiguïté, elle fit la connaissance de femmes et d'hommes à la recherche d'aventures galantes et sexuelles. Elle prit goût aux activités nocturnes du quartier. Donc, on peut dire là, d'emblée, on est très tôt dans leur histoire, on peut dire que pendant la guerre elle-même, ce Paul qui au début revêt des attributs féminins pour échapper à la police et à l'armée, ce Paul prend plaisir à sa nouvelle identité. On peut dire ça, Daniel Voldman ?
On peut tout à fait dire ça. On ne sait pas comment il en est venu là, s'il avait des tendances avant, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, quand il allait s'aérer, puisque toute la journée, il se cachait toute la journée, il travaillait un peu à domicile. Et donc, quand il allait s'aérer au Bois de Boulogne, il a tout de suite trouvé dans le Bois de Boulogne les endroits de prostitution et de rencontres. Il n'allait pas seulement respirer la chlorophylle.
Il va donc multiplier, j'allais dire, les liaisons. On ne peut même plus parler de liaisons, là. Ce sont
les rencontres. Les rencontres et des rencontres bisexuelles, des femmes, des hommes, en couple, à plusieurs. Ce qu'il appelait, puisqu'on a retrouvé une partie de son journal, enfin des notations, il appelait ça des partouzes. Donc c'était sans équivoque. Et visiblement, ça lui plaisait.
Les lecteurs de Proust et de La Recherche du Temps Perdu ne seront pas étonnés de voir que dans ce Paris de la guerre de 14 se déroulaient toutes sortes de pratiques sexuelles, parfois assez extrêmes et assez limites. Lorsque la guerre s'achève, eh bien, il faut trouver une parade. A priori, on aurait pu penser qu'il serait immédiatement amnistié, enfin que les déserteurs ne seraient plus poursuivis. C'est pas le cas de Paul.
Non, c'est pas le cas. Il pouvait l'espérer légitimement. Une première amnistie a lieu en 1919, mais qui ne le concerne pas. Et donc
il s'enfuit là à ce moment-là.
Il part en Espagne, en effet, pendant 3 ans. Et là, on ne sait pas trop s'il redevient homme pendant cette
période en espagnol.
Cette période espagnole. Néanmoins, le temps en Espagne ne leur convient pas non plus. Ils reviennent toujours en couple de femmes. Et là, encore peut-être plus affiché, parce que la mode est à la garçonne.
C'est ça.
Et donc là, c'est vraiment un couple de deux femmes qui vivent ensemble. Ce n'est pas les conditions
de la
guerre.
Les conditions de la guerre, on avait deux amis qui vivaient sous le même toit, pourquoi pas. Là, ce sont vraiment, aux yeux de la société, ils deviennent un couple de femmes.
Oui, et puis je pense que Paul a pris aussi l'habitude de vivre en femme. Il a, dès le début, modifié sa voix. Et au fur et à mesure que les années passent, cette voix se modifie durablement. Il utilise des procédés de d'épilation électrique pour faire disparaître...
L'électrolyse, dit-il, on est vraiment à la pointe du progrès.
Il recherche... Louise dépense une grande partie de son salaire pour acheter toutes sortes de crèmes, de pommades pour masquer les poils qui n'auraient pas été épilés. Bref, il y a vraiment une pratique quotidienne du travestissement et qui le fait vivre en femme, que ce soit au Bois de Boulogne ou dans la rue, dans leur quartier.
Alors je pense qu'on commence assez bien à cerner la personnalité ultra complexe et d'ailleurs passionnante de Paul. C'est plus étonnant de voir que Louise accepte tout ça. De sa part à elle, c'est une attitude alors vraiment difficile à comprendre, Daniel Voldman.
Difficile à comprendre parce qu'on n'a pas tous les éléments. Il y a une chose qu'on sait, qui a l'air d'être vraiment sûre, c'est qu'elle aime beaucoup son Paul et elle est prête à beaucoup de choses pour lui. La preuve, elle l'a aidé à déserter, elle l'a aidé à se cacher. Quand il ne travaillait pas, c'est elle qui travaillait, qui se fatiguait. Elle est prête à beaucoup de choses pour lui. Alors, on peut appeler ça de la soumission ou de l'amour ou les deux à la fois. En tout cas, elle tient à son Paul et elle le suit. Là où c'est un peu plus compliqué et sans doute plus complexe, c'est quand il veut l'entraîner dans ses activités sexuelles au Bois de Boulogne. Il voudrait qu'elle le suive. Elle dit, et sans doute elle le dit aussi, c'est au moment du procès, c'est aussi pour assurer sa défense, elle dit qu'elle aimait pas beaucoup ça. Mais finalement, elle l'a suivi, contrainte.
Ce qu'il faut dire, Fabrice Virgili, c'est que Paul n'a pas que des activités sexuelles, si je puis dire. Sous ses vêtements de femme, il exerce toutes sortes d'activités. Notamment, il va s'initier au parachutisme féminin.
Au parachutisme féminin, et il participe à plusieurs sauts dans des grands meetings aériens. C'est aussi à la mode à l'époque.
Personne jamais ne se doute de rien. C'est quand même un peu fort. Hein, c'est...
Apparemment pas. En tout cas, ou s'il y a des doutes, il reste discret. Mais il travaille, il saute en parachute, il va se promener dans son quartier. Il est connu par ses voisins. en femme.
La garçonne.
Il se fait même photographier.
La garçonne.
Faut pas oublier cette mode de la garçonne, qui évidemment. En plus, on peut dire que l'atmosphère des années folles, comme les bien nommées années folles, c'est une atmosphère relativement libre en fait. On n'est pas dans le corsetage qui viendra plus tard, dans les années 1950. Là, dans les années 20-30, les mœurs sont quand même relativement relâchées.
En tout cas, c'est ce que nous raconte cette histoire sans aucun doute. C'est-à-dire que quand ils vivent en garçonne, il n'y a pas de problème. Manifestement, les problèmes ne surgissent qu'après.
Alors justement, au bout de 10 ans, en 1925, j'allais dire patatras, ça devrait être une libération pour lui, puisque c'est l'amnistie qui va libérer, on peut dire, tous les anciens déserteurs de cette guerre de 14. Et finalement, cette amnistie qui permet à Paul de redevenir un homme va en même temps signer le début de ses graves problèmes.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il se maquille pour ressembler à une fille. Il met du savon et des chaussures à talons et des fleurs dans son chignon. Il se maquille pour ressembler à une fille. Il est très belle, ça fait appeler mademoiselle.
Il est très belle, se fait appeler mademoiselle. Zaza Fournier sur Europe 1.
Oui, c'est tout à fait de circonstance. Donc, pour parler, je dis ça pour les auditeurs qui nous rejoindraient seulement, pour parler de ce personnage incroyable, de ce Paul Grapp, qui, pour échapper à la guerre de 1914-18, est devenu une femme. Enfin, en tout cas, pas tout à fait une femme, mais s'est habillé en femme, a vécu en travesti, en a profité pour repousser loin l'exploration des plaisirs sexuels à cette époque. Et puis, en 1925, c'est là que nous en étions, en 1925, c'est l'amnistie. Il n'a plus besoin de se déguiser, enfin de se travestir, pour être plus exact. Il reprend les habits d'homme. C'était peut-être pas une obligation, d'ailleurs. Ce qui est plus étonnant encore, Daniel Voldman, c'est qu'il fait part de son expérience et qu'il la raconte.
Alors d'abord, il est content de reprendre ses habits d'homme. Il a l'air en tout cas d'être content parce que dès que la loi d'amnistie est connue, il reprend ses habits qu'il avait gardés. Ça faisait quand même 10 ans qu'il n'était plus habillé en homme. Il avait gardé ses habits. Visiblement, il n'avait pas ni grossi ni maigri. Il reprend ses habits et il va bénéficier, enfin se faire enregistrer comme déserteur amnistié. Donc il n'est plus déserteur.
Et là, pourquoi témoigne-t-il ?
Alors voilà, c'est là où ça commence à être plus compliqué pour lui. Il est de nouveau un homme et en fait, il a la nostalgie de quand il était en femme. Et quand il était en femme, il s'est fait photographier. On ne connaît pas très bien les circonstances. En tout cas, il a un album où il est où on le voit habillé en femme. Et il veut.
C'est une femme tout à fait crédible d'ailleurs que celle qui est sur la couverture.
Oui, qu'on voit sur la couverture du livre. Oui, il a l'air d'être une femme. Et donc, il court les bistrots parce qu'il est quand même déjà porté sur la boisson, avec son album, et il raconte comment il était quand il était en femme. Et là, je pense que c'est compliqué pour lui, il a une identité qui flanche, il ne sait plus s'il est un homme, s'il est une femme. Quand il est une femme, il veut être un homme, quand il est un homme, il veut être une femme, et ça va mal.
C'est à cause de ce problème d'identité qu'il bascule dans la violence, Fabrice Virgili ?
Très probablement, en tout cas, on n'a aucune trace de violence répétée auparavant. Il faut savoir aussi que quand il redevient homme, il y a une crise entre lui et sa femme et qu'elle s'en va. Après avoir refusé longtemps de prendre un amant, finalement, elle a accepté sur sa pression de prendre un amant, un espagnol du prénom de Paco, et elle décide de s'en aller avec Paco. Et quand elle revient, elle est enceinte. Et Paul ne sait pas si elle est enceinte de lui ou de Paco.
Donc on voit enfant vient ajouter encore à la confusion d'une situation dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est déjà pas banale.
Exactement.
C'est Almodovar en 1925.
C'est quand ils redeviennent finalement un couple homme-femme qu'elle est enceinte, alors qu'elle ne l'a pas été pendant 10 années. Ou en tout cas, si elle l'a été, rien ne le montre dans aucun papier.
Les relations entre eux vont dégénérer, alors que jusqu'ici, ils avaient réussi à surmonter l'incroyable complexité d'une situation peu banale. Et à partir de ce moment-là, ça va vraiment mal.
Ça va vraiment mal. Alors, on a quelques traces. Il n'était pas commode, vous l'avez dit tout à l'heure au début de l'émission. Il avait un caractère un peu violent, ou en tout cas un peu affirmé. Et il n'aimait pas qu'on lui marche sur les pieds. Donc, il y a eu peut-être dans le couple quelques passages un peu difficiles. Mais dans l'ensemble, elle l'a protégé, il l'aimait. Ils étaient unis, même si c'était deux garçons. À partir du moment où elle est enceinte, où le petit garçon garçon naît et où il devient de plus en plus alcoolique, il est de plus en plus violent. Et là, c'est un couple avec beaucoup de nuages. C'est plus sans nuages.
Et tout ça va aboutir à un meurtre. Tout
voilà,
de même.
C'est-à-dire qu'il est quand même à 5 litres par jour, comme elle le rappelle à la barre au moment du procès. La violence est de plus en plus forte vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de l'enfant, avec des menaces de mort répétées, un refus de sacrifier la moindre bouteille en argent pour pouvoir acheter des médicaments ou des choses comme ça. À ce moment-là, ils habitent pour l'enfant. Oui. Ils habitent à ce moment-là rue de Bagnolet. Les voisins se plaignent des bruits répétés. Il y a même un début de pétition. En tout cas, la concierge leur dit que si ça continue, ils devront déménager. Donc, on sent une tension de plus en plus forte. Les emplois qu'il pouvait occuper sont de plus en plus brefs. Chaque fois, il y a une bagarre avec un contremaître, une insulte avec un collègue, jusqu'à finalement la nuit fatale où lui revient complètement alcoolisé, l'enfant est malade et on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais elle prend un revolver qu'ils avaient probablement ramené d'Espagne et elle lui tire 2 balles dans la tête.
Elle sera donc acquittée. Du fait de la très mauvaise réputation de la victime, on peut le dire. Que devient l'enfant ?
Alors, l'enfant décède juste après la mort de son père, 15 jours après, de maladie à l'hôpital. Et c'est un des éléments qui joue aussi en sa faveur au moment du
procès. Ça la rend plus sympathique,
disons. C'est-à-dire qu'on a vraiment le talent de Maurice Garçon montre d'un côté un homme qui a tous les défauts de la terre.
Et de l'autre, une bonne mère.
Une femme qui, où on efface ses éventuels défauts pour montrer une mère qui vient de perdre son enfant et qui est en deuil. La toilette du deuil, c'est aussi le deuil de l'enfant.
Quelle belle plaidoirie ça devait faire. Est-ce qu'on peut dire que dans son esprit, Paul avait changé de sexe quelque part ? Est-ce qu'il était devenu une femme pendant ces 10 années de travestissement ?
Non, je ne dirais pas, on ne dirait pas les choses comme ça. On a travaillé depuis longtemps sur la manière dont les guerres peuvent influencer les relations entre les hommes et les femmes et l'identité sexuelle des hommes et des femmes. Il fait le choix de circonstance de changer de genre. Il reste néanmoins un homme. Hein, et au cours de son parcours, on voit qu'il oscille de l'un à l'autre. Et je crois que c'est plus ce malaise-là, cette difficulté de vivre ce questionnement identitaire. S'il avait changé, finalement, ça serait peut-être beaucoup plus simple pour lui. Mais là, c'est cette permanent
aller-retour entre l'un et l'autre.
Qui rend
c'est un cas tout à fait unique.
On ne sait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas si fréquent. Et puis, c'est surtout là, il y a tout dans l'histoire. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires où il y a des morceaux. Là, on a tout. Ouais. Jusqu'à cette mère éplorée qui perd son enfant au moment où elle va en prison parce qu'elle a tué son mari.
Fabrice Virgili, Daniel Voldman, La garçonne et l'assassin. C'est un joli titre, La garçonne et l'assassin. Histoire de Louise et de Paul, déserteurs travestis dans le Paris des années folles. C'est édité chez Payot. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce personnage complexe. Et puis merci à toute l'équipe, évidemment, à Lorena, à Olivier, à Guillaume. Je leur ai donné encore aujourd'hui des sueurs froides. Je vous promets que demain je serai bien à l'heure et que tout ira parfaitement. Bonjour Elena Morna.
Bonjour à tous, bonjour Franck. Alors aujourd'hui, que devient bébé une fois que maman doit repartir travailler ? Que devient maman ? Que se passe-t-il dans sa tête et dans son cœur une fois qu'elle doit quitter ce bébé, ce tête-à-tête privilégié pour retourner au travail ? Eh bien, ce sont les questions que nous allons nous poser aujourd'hui avec les experts. Et on aura surtout les réponses des experts. Vos questions, on les attend comme d'habitude au 3921 ou sur europe1.fr.
Voilà ce qu'on appelle l'harmonisation des programmes. Merci beaucoup Elena, à demain Julien.
À demain Franck sur Europe 1.
Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2.
Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation.
Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique.
Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire.
Parole de l'ombre 2.
En librairie pour 34,80€ seulement.